La traversée. La traversée est une émission de Lucien Bertolinat et Gilbert Racina sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954, avec aujourd'hui Maria Fuentes. Maria Fuentes, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'être venue au micro de Radio Grenouille. Vous êtes pied noir d'origine.
Ce n'est pas que je ne veux pas être pied noir, mais je ne peux pas dire que je suis pied noir d'origine parce que je suis née à Malaga, en Espagne, et que j'ai quitté l'Espagne à l'âge de 4 ans et que c'est à cet âge-là que je suis arrivée en Algérie, en 1949. Et la famille dont je suis issue n'a pas fait vraiment souche en Algérie. C'est un passage qui a duré une vingtaine d'années, un peu plus. Et puis voilà. Et puis après, tout le monde est parti.
Vos parents sont partis d'Espagne. Pourquoi 49, c'est une suite à la guerre d'Espagne.
Oui, c'est une suite à la guerre d'Espagne, mais c'est aussi des raisons économiques. C'est-à-dire qu'en 1939, des oncles maternels ont pu s'échapper puisqu'ils étaient républicains. Je suis d'une famille républicaine. Et donc, ils se sont échappés. Ils ont pris le dernier bateau qui partait d'Alicante et se sont retrouvés en Algérie. Et mon père, qui, lui, essayait de passer les Pyrénées au cours de cette débâcle de l'armée républicaine, a été fait prisonnier. Et donc ensuite, il a fait quelques années de prison. Et puis, quand il est rentré chez lui en Andalousie, il a essayé de vivre dans son village natal, où il était petit propriétaire terrien. C'était un petit paysan, mais qui cultivait ses propres terres. Et tout avait été vendu. Bref, il s'est retrouvé à la ville. À la ville et sans rien. Il s'est retrouvé à Malaga, avec ma mère, sa femme... Et puis, un premier enfant qui est mort. Et ensuite, je suis arrivée. Et c'était quand même la misère. Et fatiguée par la misère et aussi par le franquisme qu'il ne supportait pas, il a pris la décision de quitter Malaga et d'aller rejoindre cette partie de la famille qui, elle, était en Algérie. Et à l'époque, était déjà à Alger.
Donc à Alger, pas à Oran. Voilà.
Non, à Alger. À Alger. Où la communauté espagnole était moins importante qu'à Oran.
L'entretien que nous allons avoir est une immense digression, je l'espère, sur la notion de mémoire, un peu comme nous percevons les choses. La situation sociale de vos parents, lorsque vous arrivez en Algérie, quelle est-elle? Est-ce qu'ils ont un autre regard sur l'Algérie, du fait de leurs origines, de ce qu'ils ont vécu?
Nous sommes arrivés en Algérie en état d'extrême pauvreté. Nous étions très, très pauvres à Malaga. Nous étions quatre, puisque j'avais aussi une petite sœur, dans une seule pièce. Dans ce qu'on appelait una casa de vecinda, c'est une maison de voisins. C'est-à-dire que c'était des maisons construites, des petits immeubles à Malaga construits autour d'une cour intérieure, et les chambres étaient louées. Et voilà, nous étions entassés là. Nous sommes arrivés avec pratiquement rien à Alger. Et je pense que, enfin je sais que mon père espérait aller mieux et réussir un peu en Algérie. Et ça n'a pas été le cas, et je crois qu'il a tout de suite compris que ça ne serait pas le cas.
Il a fait quoi? Quel était son métier? Il s'est retrouvé?
Eh bien lui, qui était paysan, qui n'avait pas fait d'études, avait fait quelques études à Malaga, dans le cadre de cours du soir, et donc il avait un diplôme de géomètre. Mais qu'il n'avait pas du tout rentabilisé, il n'avait pas travaillé en tant que géomètre. Et je crois qu'il s'imaginait qu'à Alger, il allait peut-être enfin pouvoir devenir géomètre. Et en fait, il est devenu maçon. Parce que très vite, ce qu'il a compris aussi, c'est qu'il y avait la barrière de la langue. Il avait 30 ans passé, il ne parlait pas le français, il parlait l'espagnol.
Ah d'accord, voilà. Oui, on oublie ça, oui. C'est-à-dire voilà, qu'il était... Eh oui. Donc votre langue maternelle, c'est l'espagnol en fin de compte.
Oui. Oui, c'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Même si le français est devenu prédominant.
Oui, bien sûr, on va en parler.
Voilà.
Donc, une situation sociale difficile.
Très difficile.
Arrivée en 49.
Oui.
Ce qu'on peut dire un peu, c'est que durant quelques années, est-ce qu'il il fait... Quel est le souvenir que vous avez, sa réaction par rapport à ce qu'il voit en Algérie? Il découvre pas mal de choses. Il vient de l'Espagne franquiste, il y a au fil de celui-ci face à celle-ci.
Je vais
il
vous
a
dire.
Donc un regard critique.
Je vais vous dire. Il y a deux sortes de souvenirs. Enfin, je peux vous dire deux petites histoires. Soit l'histoire que j'élabore aujourd'hui, mais je peux aussi vous parler de souvenirs d'enfance très forts que j'ai de ce moment-là, parce que j'ai 4 ans et que je comprends certaines choses, pas tout. Et ce que j'ai compris très vite, et qui était d'ailleurs très douloureux, c'est que mon père a été très rapidement déçu par l'Algérie. D'abord, quand il est arrivé, on a été accueillis par des membres de la famille et l'appartement était surpeuplé. Et il y avait une crise du logement à Alger. Et donc, il est devenu évident que ça allait être très difficile de se loger. Et mon père, je crois, ne s'attendait pas aux difficultés sociales et de logement qu'il allait trouver en arrivant. Et je crois aussi qu'il n'avait pas compris qu'il arrivait dans une colonie, avec tout ce que ça implique. Et je crois qu'il a dû très douloureusement renoncer à des rêves de progression sociale et qu'il a dû se faire une raison pour devenir maçon. Et qu'avant de devenir maçon, il a été manœuvre, ou plutôt même je crois qu'il a dû faire semblant d'être maçon pour être embauché. Et que des copains espagnols très vite trouvés là l'ont aidé. Mais ça ne lui plaisait pas forcément.
Vous dites que vous aviez 4 ans. Vous avez senti ça
J'ai senti le désarroi et je crois le désespoir de mon père. Je l'ai senti. Et je crois, maintenant avec le recul, je le sais un peu, c'est que l'homme qui est arrivé en 49 à Alger était déjà un homme brisé. Et ce que je crois aussi, c'est que cet homme-là, pour ses raisons à lui personnelles, n'avait peut-être plus l'énergie suffisante pour rebondir et pour se défendre et repartir.
C'était quand même difficile parce que quand on parle d'Algérie, on décrit les peignoirs d'une certaine manière qui ne correspondent pas forcément à la réalité. On a vu des peignoirs dont certains membres de la famille ont été adoptés par des familles arabes, vu la misère.
Oui.
Donc il y avait une situation quelquefois très difficile pour les pieds-noirs.
Oui, oui.
Pour les Européens d'origine, j'entends.
Oui, tout à fait. Oui. Et c'est ce que nous avons vu. Nous sommes allés très vite vivre, comme je vous le disais avant l'interview, la famille habitait à Bab El Oued, dans ce qui restait le quartier européen, même si à l'époque il y avait énormément d'Algériens qui vivaient là aussi, et c'était très mélangé. Mais Bab El Oued était le quartier européen. Et puis, comme je vous l'expliquais, au fur et à mesure qu'on montait et qu'on prenait cette longue rue ou avenue qui allait sur la colline et qui s'appelait la Rampe Vallée, aujourd'hui la Rampe Areski, on longeait la Casbah et des ruelles partaient vers la Casbah. Donc au fur et à mesure qu'on montait, on pénétrait davantage dans le quartier algérien, le quartier des musulmans. Et nous sommes allés vivre à mi-chemin entre Bab El Oued et la prison de Barberousse, qui était au sommet de la colline, là où nous étions tous mélangés. Les populations dans ce quartier-là étaient très mélangées. Dans l'immeuble où j'habitais, il y avait une famille algérienne, une famille pied-noir, une famille juive, nous les Espagnols, et en bas, il y avait une famille d'origine italienne.
C'est-à-dire dans le même immeuble.
Dans le même immeuble. Dans le même immeuble. Et dans la même rue, il y avait, dans tous les immeubles, qui étaient des immeubles de taille moyenne, mais des immeubles d'un quartier construit dans les années 30, probablement. Hein. C'était une architecture française, très française. Dans ces immeubles-là, les populations étaient mélangées.
Alors, une question. Les villes sont peuplées généralement par des Européens.
Oui.
Mais il y a un contact avec la population algérienne, en l'occurrence, dans certains quartiers.
Il y a des zones où les populations se mélangent. Ce sont des quartiers très populaires. Et cet endroit-là, qui en plus longe la Casbah, la ville arabe, est un endroit où se retrouvent toutes sortes de communautés.
Vous allez à l'école française à ce moment-là, bien entendu.
Oui.
Donc vous découvrez le français très,
voilà.
Très vite.
Voilà,
très vite.
Exactement.
Vous êtes une élève brillante, par ailleurs.
J'ai beaucoup de mal les deux premières années. Je vais d'abord une année à l'école maternelle et j'en ai un souvenir très confus parce que je crois que je ne comprenais pas très bien encore. Et donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on m'a ensuite raconté que je pleurais beaucoup au début, mais moi, je ne m'en souviens pas. C'est comme si j'avais été un peu endormie. Et puis j'ai 2-3 flashs. Et par exemple, je peux vous dire que le premier mot que j'apprends, qui me semble enfin reconnaître, c'est le mot poulet rôti. Voilà.
Pourquoi ?
À cause d'un dessin que la maîtresse avait fait au tableau. Mais j'ai l'impression que je me souviens, c'est comme le premier flash. Soudain, je me suis dit, pollo, le poulet rôti, voilà. Et puis, je me raccrochais à mon petit voisin, avec lequel j'allais à l'école maternelle. L'école maternelle était mixte et je ne lui lâchais jamais la main. Donc, il était très important pour moi.
Vous étiez vraiment une immigrée en Algérie.
Mais oui, j'étais une immigrée en Algérie. Mais oui, et on m'appelait la petite espagnole. Et même, j'ai 2-3 souvenirs d'humiliation. On ne me l'a pas dit méchamment, mais quand je parlais espagnol... Tel ou tel voisin a pu me dire « Arrête de parler comme un bourricot !» Parce que je parlais espagnol.
Peu à peu, vous allez faire vos preuves, si j'ose dire.
Oui.
Puisque vous allez prendre l'ascenseur social, en fait.
Oui, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Je ne sais pas. C'est
non, si je fais un bilan de ma vie, je peux vous dire que l'ascenseur social ne m'a pas mené très haut.
Non, mais je ne vous dis pas... Un étage suffit. Je veux dire par là que au lycée, ça marche très bien.
Pas tout de suite d'ailleurs. Chaque fois qu'il y a rupture, ça marche pas bien. À l'école primaire, je suis devenue les 3 dernières années en CE2, CM1, CM2, une bonne élève. Voilà. Là, j'étais une bonne élève. Et il me semble important de vous dire que cette école primaire était dans la Casbah. Là, nous étions vraiment dans la Casbah. C'était l'école de la rue Marengot, dont certains se souviennent, puisque j'ai échangé avec des amis algériens. La rue Marengot s'enfonçait complètement dans la ville arabe, dans la Casbah.
Donc vous êtes avec des Algériens en classe ?
La majorité des élèves, ce sont des petites Algériennes. C'est des Algériennes.
Oui,
et nous sommes quelques Européennes.
D'accord. Vous allez ensuite au lycée ?
Et ensuite, je vais au lycée. Et c'est quand je vais au lycée... que la tendance s'inverse et que c'est une majorité d'Européens, comme on disait, de pieds noirs, et une minorité d'Algériens, d'Algériennes.
Vous avez quelque chose à dire là-dessus parce que vous sentez quelque chose, un changement, en tout cas maintenant.
Non seulement maintenant, mais surtout, je sais qu'à l'époque, moi-même, j'ai eu un peu de mal à m'adapter. J'ai eu un peu de mal à m'adapter parce que j'ai rencontré un autre milieu. J'étais d'un milieu extrêmement populaire, très pauvre. Et au lycée, déjà, le milieu social avait un peu changé. Alors, ce que je ne savais pas à l'époque, mais je sais, moi, qu'au début, j'étais pas très bien dans mes baskets. J'étais pas très bien dans mes baskets. Et il a fallu que j'apprenne les codes, les nouveaux codes. Et autre chose aussi, c'est que j'étais assez triste de ne pas retrouver dans ce lycée les petites copines que j'avais pu avoir dans mon quartier habituel. Mais la plupart d'entre elles, je savais qu'elles n'y seraient pas. Je savais que la plupart d'entre elles, après le CM2, ne viendraient pas au lycée. Soit elles étaient orientées vers le certificat d'études, soit elles restaient à la maison pour se marier un peu plus tard.
Faites votre scolarité, surviennent les événements.
C'est les événements ont déjà survenu, non?
C'est-à-dire, non, vous êtes toute jeune, l'école communale.
Oui, c'est vrai. Oui, pardon. Oui.
Mais justement,
oui, c'est à partir de la sixième. Oui, non, tout à fait.
Justement,
tout à fait,
les premiers signes des événements, vous les percevez comment? Qu'est-ce que c'est qui, si vous avez un souvenir?
C'est le journal, c'est les photos sur le journal. Et c'est les commentaires, aussi bien en famille que les commentaires de tout le voisinage. Et ça reste un peu lointain, d'abord parce qu'on parle d'événements, bien sûr, hein, et puis parce que ça concerne ce qu'on appelait le bled. C'était pas encore les attentats à Alger. Donc ça me semble très lointain. C'est... On n'est pas complètement concerné. Sont concernés les colons, là-bas, au loin, mais dans des campagnes que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas l'Algérie. Je sors très peu d'Alger. On va pique-niquer dans les forêts avoisinantes ou on va à la plage, dans les plages qui ne sont pas très loin. Mais moi, les propriétés, la campagne, l'Algérie, je ne connais pas.
Hein, il faut rappeler que l'Algérie, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés.
Un
pays qui est relativement sous-peuplé. Et c'est vrai que les premières actions, l'insurrection a commencé précisément dans des régions où il n'y avait pas beaucoup de Français, sauf quelques fermes.
Voilà.
Donc ça a commencé dans des endroits assez éloignés d'Alger ou d'Oran ou de Constantine. Mais vous entendez quand même la radio à l'époque, on regarde la télévision?
Non. En tout cas, chez moi, la télévision est venue beaucoup plus tard. Personne n'avait la télévision quand les événements, comme vous dites, se sont déclenchés. En tout cas, pas tout de suite. Elle est venue un peu après. Et il n'y avait dans l'immeuble qu'une famille qui possédait la télévision. C'était les voisins du dessus, chez lesquels nous allions souvent la regarder.
Ça se passait en France aussi. On allait quelquefois chez certains voisins.
Oui, bien sûr.
Pour regarder la télévision. Oui. Alors, une question, Saint-Colonne à la Une, vous en avez un souvenir?
Mais oui, parce que ça a duré longtemps, j'ai vu plus tard. Mais
il y a eu une grande émission, là. Moi, je me souviens de ça. Roger Louis, qui se retrouve dans le bled avec un sergent, il lui demande comment il met la cartouche dans la culasse du fusil. Il commence comme ça, ces questions.
Et c'est en quelle année, ça?
Si je ne me trompe pas, c'est 58, oui. De Gaulle est arrivé au pouvoir. C'est un peu plus tard.
C'est un peu plus tard, et je n'ai pas vu cette émission. Je n'ai pas vu.
Elle a marqué toute la France. C'était la première émission de télévision sur l'Algérie. L'armée était très réticente. Ils ont quadrillé tout le secteur. Il ne fallait pas qu'il y ait un coup de fusil. Je reviens à ça. C'est-à-dire que les premiers événements, c'est les journaux. Vous avez quelques échos.
Les journaux, les commentaires. Et les commentaires à l'intérieur de la famille étaient différents des commentaires que je pouvais entendre dans la bouche de certains voisins, pieds noirs, plus pieds noirs que nous en tout cas, plus attachés à l'Algérie. Parce que dans ma famille, qui avait été militante républicaine, qui était politisée, qui défendait des idées socialistes, tout ça apparaissait comme finalement très légitime. Ça n'étonnait absolument pas mon père et mes oncles que les Algériens se révoltent.
Vous passez votre adolescence.
Oui.
À ce moment-là. Mais vous vivez de manière insouciante par rapport à tous ces événements. Ils ne vous atteignent pas encore.
C'est un mélange parce que quand même le contexte est difficile. D'abord, moi, je ne peux pas dire que je vis d'une manière insouciante, mais c'est de moi que je suis en train de parler quand je vous dis ça. Ce n'est pas forcément les événements d'Algérie, mais moi, je suis dans une vie un peu difficile. Pour toutes sortes de raisons, et surtout parce que nous avons peu d'argent, nous ne sommes pas très heureux, il y a des problèmes dans la famille, bref, pour des raisons personnelles, je ne suis pas heureuse. Mais je ne suis pas très heureuse, mais le contexte est un peu difficile. Et les conditions d'habitat deviennent chaque jour plus difficiles. Parce que nous logeons dans un appartement qui est très vétuste, qui est très petit. Je grandis. Maintenant que je vais au lycée, je peux comparer ma situation avec celle des camarades de classe. Et je me rends compte à quel point je fais partie des plus démunis. Je veux dire, moi, je n'ai pas une chambre où je peux recevoir mes copines. Nous logeons dans deux pièces, très vétustes, et je n'ose pas faire venir les petites copines que j'ai pu me faire en classe au lycée. Elles ont toutes, quand elles m'invitent chez elles, elles ont toutes des appartements qui sont mieux que le mien. Et ce n'est pas seulement qu'ils sont mieux, c'est qu'au moins elles ont une chambre, et moi, je n'ai pas de chambre, et si je fais venir quelqu'un chez moi, ben, c'est dans la salle à manger. Dans la salle à manger, il y a mon père, il y a ma mère, il y a ma sœur, voilà.
Donc une situation différente de celle qu'on imagine généralement. Avant qu'il y ait une précipitation des événements, hein, je parle donc dans les années 60 plutôt que 62, vous êtes donc en plein dans l'adolescence.
Oui.
Vous me disiez une fois que ça a été une période en fait que vous n'avez pas mal vécu à ce moment-là, parce qu'il y a une certaine liberté du fait du chaos qui commence à s'installer.
C'est à la fin, c'est la dernière année, Gilbert. C'est vraiment la dernière année. Avant qu'on cesse d'évoquer la très jeune adolescente qui vit encore à la Rampe-Vallée et qui va au lycée, avant de quitter donc la Rampe-Vallée, si vous voulez, je voudrais évoquer un souvenir qui vient de me traverser à l'instant pour vous donner la mesure de ce contexte très particulier, et difficile et lourd que nous vivions et qui me traversait mais que j'analysais pas forcément. Alors, d'une part, l'arrivée des militaires. L'arrivée des militaires du contingent. Ils sont arrivés et on a installé un peu partout dans ce quartier-là et dans d'autres, des postes militaires dans des locaux qui existaient ou qui n'existaient pas. En tout cas, là où j'habitais, un peu plus haut, non seulement il y avait une gendarmerie, mais il y avait un poste militaire. Et les militaires qu'on appelait les militaires du contingent faisaient la patrouille tous les soirs. Donc, nous regardions, lorsque nous étions devant la porte, en train de prendre le frais, ou de jouer, ou de parler, puisqu'on jouait moins, on avait un peu grandi, nous regardions passer les militaires du contingent, qui étaient des jeunes gens, parfois très séduisants, parfois moins, mais qui nous intéressaient, qui intéressaient les gamines entre 11 et 13 ans que nous étions. Oui. Bon, il y a ça. Ensuite, il y a aussi le fait que, comme nous étions très très proche de la Casbah, hein, et vous savez que les attentats ont commencé à se déployer et qu'on a commencé à entendre parler à ce moment-là, non seulement de ce qui se passait dans les campagnes et donc dans le bled, mais aussi des attentats dans le centre-ville à Alger, toutes ces bombes qui explosaient. Alors moi, je n'ai pas vécu quelque chose de particulier par rapport à ça, si un truc, mais bon, je ne vais pas non plus délayer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'autre jour, en regardant le film d'Yves Boisset, La bataille d'Alger, je me suis souvenu qu'en effet, les parachutistes fouillaient la Casbah tous les jours, tous les jours, tous les soirs, tous les soirs. Et moi, un jour, on a tapé très violemment à la porte et on a été réveillé, on a ouvert la porte et il y avait une patrouille de parachutistes qui a envahi la pièce. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que notre immeuble, qui était très proche de la Casbah et qui avait deux entrées, une entrée qui donnait dans la rue d'en bas et une entrée qui donnait dans la rue d'en haut, puisque l'immeuble était construit à flanc de colline. Il y avait donc deux portes, deux possibilités de sortie. Et la patrouille recherchait quelqu'un qui s'était enfui. Et ils ont fouillé tout l'immeuble, tous les appartements de tout l'immeuble. Eh bien, c'est la seule fois de ma vie où j'ai été réveillée par des soldats en armes qui pénétraient dans une pièce qui est devenue minuscule. Elle était minuscule, mais avec ses 4 ou 5 ou 6 hommes dans la pièce, c'était tout petit, tout petit, tout petit, et c'était terriblement impressionnant. Et pourtant, on ne nous a pas fouillés, on ne nous a pas malmenés, on ne nous a pas insultés, mais c'était très agressant.
Quand arrive le chaos, ça se passe comment? Alors, c'est-à-dire, vous avez fait quelques remarques là-dessus. C'est-à-dire que brutalement, c'est comme un château de cartes qui s'écroule.
Oui. Oui. C'est la dernière année. C'est lorsque on a su que l'indépendance se faisait.
Donc c'est le discours de De Gaulle
sur l'autodétermination,
voilà. Bien sûr.
C'est le discours de De Gaulle. Et ensuite, c'est le référendum qui vient après et qui entérine. Mais entre le discours de De Gaulle et le référendum et l'indépendance elle-même et les accords signés, il y a tout un laps de temps, si je ne dis pas de grosses bêtises, hein, parce que je ne suis pas du tout en train de... Je vous livre tout ça comme ça, sans avoir réfléchi. Où effectivement, alors... C'est un monde qui est en train de... C'est une déliquescence, c'est une débandade. Nous sommes obligés de quitter le quartier, enfin le quartier, la rue, la Rampe-Vallée. La Rampe-Vallée, nous sommes les derniers Européens à quitter l'immeuble. Tous les autres sont partis avant nous.
On vous le conseille, comment ça se passe?
Et nous, on finit par nous le conseiller. Parce que nous, c'est qu'on ne sait pas trop où on va aller. Donc, on finit par nous le conseiller.
C'est-à-dire, expliquez.
C'est-à-dire que l'épicier du quartier, qui était algérien, a dit à mon père, il vaudrait mieux maintenant que vous partiez, mon ami, ou je ne sais plus ce qu'il lui a dit, il vaudrait mieux maintenant que vous partiez parce qu'il y a des frères qui viennent du bled et nous, on sait bien... quelles sont vos opinions, quelles sont vos idées, mais il y a trop de monde qui va arriver et on ne pourra pas toujours forcément vous défendre.
Alors, voilà. Expliquez, ces frères qui viennent du bled, c'est-à-dire ce sont des maquisards qui essaient de se loger à Alger.
Oui, je pense, des maquisards, des populations. Alger commence à tomber entre les mains du FLN, je pense.
Donc ça s'est traduit par un afflux de population.
Je crois, oui. Il faudrait vérifier du point de vue historique.
Alors, en tout cas, c'est ce que vous avez vécu, le sentiment.
Moi, c'est ce que j'ai
avez.
Vécu. Ce que j'ai vécu, c'est que les Européens, les pieds noirs sont partis. Certains ont quitté déjà à ce moment-là l'Algérie. D'autres se sont réfugiés dans d'autres quartiers. Mais il y avait un afflux de population. Il y avait un afflux de population. On aurait dit qu'il y avait une pression. Sur la ville. Forcément, je pense qu'historiquement, on devrait pouvoir l'expliquer.
Mais bon. Bien entendu. Mais on va revenir sur ce point. La personne qui vient vous parler, d'après vous, m'a dit qu'elle était sûrement mandatée aujourd'hui. Quel est votre sentiment là-dessus? On lui avait dit de dire, probablement.
Je ne sais pas si on lui avait dit de dire, mais en tout cas, il a pris sur lui pour dire. Je pense qu'il a jugé. Je lui fais confiance. Enfin, je lui fais confiance. Je pense qu'il n'est pas venu raconter d'histoire. Je pense qu'il est venu dire à mon père ce qu'il ressentait profondément. Je ne pense pas qu'il ait voulu s'approprier l'appartement pour quelqu'un d'autre. Non, je crois vraiment qu'il a pensé que nous n'étions plus vraiment en sécurité là. Je le pense. Mais peut-être que je me trompe.
Vous allez où à ce moment-là?
On ne va pas très loin. On descend, hein, puisque plus on montait, plus on allait vers la Casbah, plus on descendait vers le Mort-de-Mer, on arrivait vers Bab el-Oued, qui était aussi un quartier très populaire, mais avec une majorité d'Européens, comme on disait.
Ce qui se passe, c'est que dans les quartiers européens, donc ceux-ci vont devenir de plus en plus homogènes.
Oui.
Parce que l'inverse se produit aussi.
Oui.
Ça, c'est l'action de l'OAS.
Oui. Je veux parler de Bab el-Oued, parce que l'action de l'OAS sur les autres quartiers, je ne sais pas ce que ça a pu donner. En tout cas, à ce moment-là, les populations... Je peux vous dire que j'ai vu se faire la séparation. Moi, j'ai connu une ville, je vous parle du quartier que je connais. Je vous parle du quartier populaire où j'habitais. J'ai connu un endroit où les populations étaient très mélangées. Il est venu un moment où les populations l'étaient beaucoup moins. Et en tout cas, à Bab el-Oued, ce qu'on a connu est vraiment un véritable apartheid. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de toute façon, c'était devenu très dangereux. Il est venu un moment où on a dit que l'OAS tenait le quartier. Et c'est vrai que l'OAS tenait le quartier. Et l'OAS tenait le quartier comment? C'est-à-dire que tout Algérien qui passait une certaine ligne et qui pénétrait dans le quartier était descendu par l'OAS. Et que sa tête, d'ailleurs, était mise à prix puisque les tueurs de l'OAS étaient payés pour commettre ce genre de crime abominable.
Il y avait un tarif, d'ailleurs.
Oui, je dis 1000 francs, et il disait 1000 francs le bico, excusez-moi, c'est comme ça qu'il le disait, mais est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on disait 100 000? Je ne sais pas.
C'est 100 000,
c'était
je crois.
C'était 100 000, oui. Alors c'était oui. 100 000, voilà. 100 000, voilà. C'était 100 000.
Mais c'est une situation qui est vécue, parce qu'on voit bien que c'est une situation sans issue.
Il y a eu une espèce de désespoir et de je m'en foutisme qui mène à faire tout et n'importe quoi, qui était aussi bien une politique de la terre brûlée que là, en ces derniers instants, les dernières vengeances possibles et imaginables. Certains y ont cru. Je veux dire, quand l'OAS tenait le quartier à Bab el-Oued, certains... Alors, peut-être une minorité, en tout cas pas nous et pas des tas de gens que je connaissais, peut-être ont pu croire que c'était encore possible. Je ne sais pas s'ils ont pu le croire. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était comme
ça. Il y a une certaine symétrie entre la FLN et l'OAS, quoi. Ils sont, font un dialogue à deux au-dessus des populations. C'est un peu ça que vous dites. Ils prennent la population en otage. Vous êtes séparés alors que vous étiez tout de même mélangés. À certains endroits, en tous les cas.
Il faut voir d'où on parle et de...
C'est pas un jugement que je veux que... C'est pas un jugement. C'est une explication.
De toute façon, les populations sont toujours prises en otage dans ce type de guerre. C'est ce que je pense vraiment. Parce que quand je pense aux attentats du FLN dans Alger, je veux dire, il y a la guerre de libération, mais les attentats qui portent sur des civils, quelle que soit leur origine ou leur nationalité, des attentats perpétrés sur n'importe qui, n'importe où, jeunes, vieux, femmes, c'est toujours la population qui est prise en otage. Et c'est ce qu'on a vu se produire à Alger. Quand l'OAS ensuite tue systématiquement, alors c'est encore plus cynique si vous voulez, parce que là on choisit bien, on fait attention, on est en train de, ça ressemble au nettoyage ethnique dont on parle de nos jours. Donc bien sûr que la population est prise en otage, elle est monstrueusement prise en otage. Et mon avis à moi, c'est que rien ne peut excuser ce genre de prise d'otage.
Vous savez voilà. Quel âge à ce moment-là? Je suis indiscret, mais vous êtes en pleine adolescence.
Oui, j'ai 15 ans, 16 ans. Je quitte Alger l'année de mes 17 ans.
Vous écoutez des disques, vous avez d'autres envies.
Oui, tout à fait. Et j'écoute des disques et j'aime beaucoup la musique et je danse le rock. Et dans ce Bab el-Oued tenu par l'OAS, ou en tout cas tous des glingues et des tas de gens sont en train de partir... Je peux aussi m'amuser beaucoup et je m'amuse beaucoup. Et comme je vous le disais en aparté, je vais en boum l'après-midi.
Ah, c'était la grande époque voilà. Des boums, voilà.
Et c'est, voilà, c'est et bien même ça. Dans Bab el-Oued, comme ci ou comme ça, on allait en boum et on se fréquentait et on voulait danser.
Maria Fuentes, vous revenez en France.
Oui.
Vous partez de l'Algérie à quelle date ?
À la fin de l'été 1962.
Donc, c'est-à-dire l'indépendance a été proclamée, puisque c'est en juillet.
C'est en juillet.
C'est en juillet.
Oui, c'est en juillet, oui. Oui, c'est en
durant
juillet.
Durant l'été.
Durant l'été, il n'y a pratiquement plus d'habitants dans la rue où j'habite à Bab el-Oued, puisque les gens ont commencé à partir un peu avant l'indépendance. Et je me souviens très bien de cette indépendance, puisqu'elle a été fêtée par les Algériens. À l'époque, j'habitais donc rue Livingstone, ça s'appelait la rue Livingstone à Bab el-Oued. Il n'y avait plus beaucoup d'Européens dans cette rue, mais les immeubles avaient été vidés. Il n'y avait pas encore d'autres personnes qui étaient venues habiter là. Et il me restait une copine, dont je me souviens, Bernadette. Et ce jour-là, nous avons été interdites de sortie par mon père, qui nous a interdit formellement d'aller dans la rue, puisque les Algériens manifestaient leur joie et descendaient en masse de la Casbah, et ils arrivaient de partout, et je les ai vus défiler sous nos fenêtres. Et je vais vous raconter ce petit moment, parce que c'est amusant et en même temps émouvant, et puisque nous étions pour l'indépendance, c'était très frustrant finalement de ne pas aller défiler, mais en même temps c'était très très dangereux d'aller défiler, puisque c'est les Algériens qui défilaient, et les rares Européens qui étaient là étaient tous, comme nous, enfermés chez eux. Et puis nous nous ennuyions beaucoup, la journée a été longue, et nous avions commencé à nous raconter des histoires, ma sœur Bernadette et moi. Et puis nous avons décidé, puisque peut-être bientôt nous allions partir, qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais enfin on allait voir, et nous avons vidé tous les fonds de bouteilles d'alcool qui étaient dans le buffet de notre salle à manger.
Vous avez fêté ça en fait ?
Nous avons fêté ça. Et alors, une fois que nous avons éclusé complètement l'alcool de cacao et autres fonds de ce genre qui restaient, nous étions un peu pompettes, et nous avons ouvert la fenêtre en grand et nous nous sommes mis à lever nos verres et à acclamer, nous aussi, cette foule qui défilait sous nos fenêtres. Et mon père a fait irruption comme un fou pour la refermer et il était fou de rage. Voilà comment j'ai fêté l'indépendance de l'Algérie.
Vous arrivez en France
Donc on reste là, on sort de moins en moins. C'est très compliqué de savoir comment on va partir. C'est Monsieur Oussidoum, cet épicier dont je vous parlais, qui a acheté la deux chevaux de mon père, parce que nous n'avions pas d'argent, nous n'avions plus rien. Les chantiers étaient fermés depuis longtemps, mon père ne travaillait plus, donc nous avions très très peu d'argent. Et grâce à la vente de la deux chevaux, nous avons pu, et je ne sais pas quoi, peut-être des économies, je ne sais pas, nous avons pu payer le billet pour prendre le bateau à la fin de l'été, fin août.
Vous arrivez à Marseille ?
Non, nous n'arrivons pas à Marseille, nous arrivons à Port-Vendres. Et nous allons à Port-Vendres très précisément parce que nous avons l'adresse d'une famille qui veut bien nous prêter ou nous louer un logement pas très cher à Albi dans le Tarn. Donc nous arrivons à Port-Vendres, nous faisons un bref séjour chez une de mes tantes qui, elle, est déjà à Perpignan, qui est arrivée là. Nous restons quelques jours dans son appartement. Nous sommes très nombreux aussi. Et puis, après, nous allons à Albi, dans le Tarn, où on nous prête et ensuite on nous loue un appartement.
Combien de temps, Albi ?
Albi, une année scolaire. Albi, une année scolaire, c'est une jolie ville, mais il y fait très froid. C'est un hiver particulièrement froid, l'appartement n'est pas bien chauffé, il y a des cheminées.
Excusez-moi, c'est le fameux hiver où ça gèle en France.
Voilà, c'est le fameux hiver où ça gèle en France. Et je crois que tous les pieds noirs rapatriés d'Algérie vous parleront de cet hiver-là. Tout le monde m'en a parlé et c'est vrai que c'est saisissant. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois la neige. Les rues d'Albi se couvrent de neige et mon pauvre père qui est retourné sur un chantier a beaucoup de jours chômés, des jours où il ne peut pas aller travailler parce qu'il fait trop froid. Voilà.
Vous revenez ensuite en Provence.
Et on vient à Toulon parce qu'une tante, elle, a pu s'installer à Toulon et qu'elle décide de nous héberger le temps, à nouveau, que nous trouvions un appartement à Toulon. Voilà.
Quelque temps après, vous entrez en hypocagne à Toulon.
Oui, c'est l'année d'après, c'est-à-dire que je vais d'abord en philo à Toulon, je suis en première à Albi, en philo à Toulon, et la deuxième année, toujours à Toulon, en hypocagne.
Une question, parce que vous en avez parlé préalablement à notre petite discussion, le départ d'Algérie, c'est au fond un soulagement.
Ce qui est un immense soulagement, c'est l'arrivée en France. Sur le bateau, comme nous sommes très jeunes, ma sœur et moi, nous sommes très contentes, nous avons l'impression de faire une croisière, nous sommes sur ce bateau, sur le pont, mais quand même la situation est difficile. Les gens qui nous entourent sont tristes.
Sur le bateau Qu'est-ce qu'ils se disent les gens sur le bateau? C'est une traversée,
mais je m'en souviens pas bien parce que avec ma sœur, je suis plutôt sur le pont et on se fait draguer par les jeunes gens qui sont par là, par les matelots qui s'occupent des cordages. Enfin bon, je ne suis pas très présente et je n'ai pas un œil sociologique
sur
ce qui se passe sur le bateau. Mais je sais que mes parents sont un peu accablés. Je sais que nous sommes en train de revivre un départ que nous avions déjà vécu alors que nous étions encore plus petites, exactement dans les mêmes conditions. Nous avons très peu de bagages. Nous avions quitté Malaga, avec très peu de bagages. Nous quittons Alger avec très très peu de bagages. Et les miens personnels, ma mère a oublié, dit-elle, de les prendre. Donc je n'ai aucun de mes journaux intimes. J'avais préparé un sac, j'y avais mis mes journaux intimes, les livres que j'aimais bien, mes deux, trois affaires personnelles, ce sac qui restait dans l'appartement à Alger. La situation est difficile, difficile. Nous ne savons pas où nous allons. Mais je dois vous dire qu'arrivé à Albi, j'ai éprouvé un immense sentiment de soulagement. Et pourtant, la situation était très difficile. Mais la guerre, les trucs comme ça tellement durs, tout ça était fini. C'était fini.
Ça tient aussi parce que...
Et j'étais en France.
Voilà. Ça voulait dire quoi? Vous étiez pieds noirs quand même. Non.
Ça voulait dire que, quelque part dans mon cœur, j'étais forcément pieds noirs. Mais j'avais passé mon temps à rêver de la France. Je suis allée à l'école française. J'ai appris des auteurs français. J'ai appris à lire comme tout le monde a appris à lire. Nos ancêtres les Gaulois, le feu dans l'âtre, la neige à Noël. Je ne connaissais pas ça. Et j'allais découvrir ce dont on m'avait tellement parlé. J'avais vécu dans un endroit qui était censé être la France et qui n'était pas tout à fait la France. Et j'arrivais en France. Et j'arrivais en France avec mes rêves de petite Française. Petite Française qui s'était fabriquée à l'école. Donc en France, j'allais faire des études brillantes. J'allais aussi faire du théâtre, bien sûr. J'allais devenir une grande femme de théâtre, probablement. Ou un auteur à succès, ou je ne sais quoi. Mais c'était en France. Et Albi n'était qu'un passage. Et après Albi, il y aurait Paris. Il n'y a pas eu Paris.
La situation sociale est difficile.
Très difficile. À Albi, on connaît vraiment la restriction. On n'a pas faim, mais presque. C'est-à-dire qu'il y a à peine de quoi se nourrir. On a mangé beaucoup de pommes de terre, beaucoup de pommes. Ma mère a fait beaucoup de ménage. Mon père s'est beaucoup plaint. Et on était toujours très préoccupés.
À Toulon. Vous arrivez à Toulon.
Oui.
À un certain moment. Vous êtes donc en hypocagne à Toulon.
Oui.
Donc vous avez de grandes ambitions, vous venez de le dire, à ce moment-là.
Oui.
L'Algérie, pour vous, à ce moment-là, c'est une page tournée. J'insiste un peu là-dessus.
C'est une page tournée. J'ai tourné cette page à Perpignan. Quand je suis arrivée à Port-Vendres, j'ai passé une ou deux semaines chez la tante qui nous hébergeait, comme je vous le disais, avant que nous n'allions à Albi. Nous avons fait halte là. Et j'étais encore plongée dans ce que j'avais vécu les derniers mois à Alger, J'avais eu à Alger un premier flirt dont je me sentais amoureuse et je l'avais perdu de vue. Il faisait son service militaire. Il était parti dans le bled, il était dans un corps de parachutistes. Je ne sais plus si c'était les bérets verts ou les bérets rouges, mais ça avait beaucoup d'importance pour moi à l'époque. Je ne sais pourquoi, à cause de l'uniforme probablement. Et puis j'avais perdu sa trace. Et alors, la première démarche que j'ai faite, je l'ai faite à Perpignan. Je me suis rendue à la caserne où je savais qu'il avait été. Après l'Algérie, il avait été rapatrié là et il était passé dans cette caserne à Perpignan. C'est la dernière adresse que j'avais de lui. Et voilà. Et donc, je suis allée là-bas dans l'espoir de retrouver sa trace.
C'est le seul attachement que vous aviez, au fond, avec...
C'est pas le seul, mais c'était le dernier. C'était le dernier important. Les premiers émois d'une jeune fille, enfin, si je peux parler comme ça.
Mais c'est ça. Mais une chose, vous m'avez dit une fois que, au fond, vous êtes littéraire, bien sûr. C'est pour ça que j'ai insisté sur Cagne, sur la Cagne à Toulon et tout. Mais que vous avez peu lu de livres sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie.
Oui. Oui, vraiment. Vraiment. Je me suis souvent posé la question. J'ai porté mon intérêt sur d'autres domaines. Je me suis beaucoup intéressée à la littérature. Je me suis intéressée à la sociologie. Je me suis intéressée à la psychologie, que j'ai un peu étudiée. Je crois que j'aurais peut-être voulu faire des études de médecin pour devenir psychiatre. Mais...
Je rappelle que vous avez enseigné l'espagnol... Vous avez été enseignante.
Oui, j'ai enseigné l'espagnol et j'ai fait des études de psycho. Et ensuite, je me suis retrouvée travaillant à ce qu'on a appelé à partir des années 80 à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans des dispositifs qui sont souvent mis en place par des associations. Je n'ai donc pas du tout fait la carrière que j'avais envisagée. Et comme je vous le disais aussi en aparté, quand j'étais en hippocagne, je pensais faire Cagne. Et j'envisageais l'école normale supérieure, ce qui faisait partie un peu des rêves familiaux. Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas passer le concours puisque je n'étais pas française. J'avais une carte de séjour, j'étais espagnole. Je n'étais pas française. Et puisque je n'étais pas française, je ne pouvais pas passer un concours qui concernait ou l'administration ou les grandes écoles françaises.
Vous avez été immigrée jusqu'au bout.
Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout.
Vous venez de nous dire que la mémoire, c'est aussi l'oubli.
Oui. Enfin, la mémoire, c'est aussi l'oubli, mais en tout cas, moi, ce que je vous l'ai déjà dit, et ça reste peut-être légèrement mystérieux, mais je crois que j'ai tenu à oublier un peu l'Algérie. Comme si je m'étais expliqué nos malheurs algériens de la manière suivante. Ce fut une erreur de mon père, je l'ai toujours su, et mon père aurait dû aller directement en France. Mon père s'est retrouvé en Algérie, et cette Algérie colonie française, c'était vraiment pas sa tasse de thé d'une certaine manière, et il l'a compris tout de suite. D'abord parce que lui, il était anticolonialiste, qu'il souhaitait l'indépendance de l'Algérie, qu'il a été très malheureux en Algérie quand il voyait ces différences de traitement. Et qu'il voyait qu'il y avait bien un peuple qui souffrait, et que lui aussi souffrait d'une certaine manière, mais pour d'autres raisons. Et je pense que je me suis raccrochée à cette idée que, dans le fond, c'était pas plus mal qu'on ait émigré, mais qu'on s'était trompé de pays, et qu'on aurait dû aller tout de suite en France. Et le fait qu'on arrive enfin en France était une manière de laisser derrière soi quelque chose qui pouvait sembler juste une erreur.
C'est-à-dire l'erreur du père ?
L'erreur du père, voilà, l'erreur du père, et que je dois assumer d'une certaine manière, parce que ça m'a constitué, parce que c'est le pays de mon enfance et de mon adolescence. Aujourd'hui, et c'était très libérateur de quitter l'Algérie.
Et aujourd'hui, vous y pensez à l'Algérie ? Vous êtes retournée en Algérie ?
Je suis retournée en Algérie en 1989, juste avant que ça devienne plus difficile. J'ai fait un voyage très rapide. Je suis allée dans des endroits que je ne connaissais pas, puisque j'avais très très peu voyagé en Algérie. Je suis allée jusqu'à Gardaïa. Et Alger, je l'ai visité très très rapidement le dernier jour. Et comme je vous l'avais dit aussi en aparté, j'ai eu l'impression de vivre un étrange mauvais rêve. Parce que c'était connu et en même temps c'était différent. Et puis, ce jour-là, il faisait gris, c'était triste. Et puis, tout était un peu comme ça, un peu délabré. Et puis on est passé dans notre minibus devant le stade d'où sortaient des hommes qui avaient assisté à un match de foot et que nous avons été encerclés par tous ces hommes et que nous n'étions pas très tranquilles et que c'était un pays qui était un peu bizarre et qui restait toujours un peu bizarre. L'Algérie a été un pays bizarre.
Marie Fuentès, on pourrait rester longtemps à discuter, mais je vous remercie.
De rien.
La traversée. Une émission de Lucien Bertolina, Gilbert Rassinard. Prochain rendez-vous, le dimanche 4 mars, sur les 3-8 de la Grenouille, à 20h. Bonsoir.